Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le directeur de campagne de Manuel Valls, le sénateur Didier Guillaume.
Bonjour Didier Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. La terreur à Berlin à quelques jours de Noël sur une des principales places de la capitale allemande. 12 morts, 48 blessés. Nous devons considérer qu'il n'y a pas de répit face à la menace terroriste.
Il n'y a pas de répit. Ce matin, nous sommes tous des Berlinois, nous sommes tous des Allemands. Nous devons avoir une solidarité. Ce matin, en fait, nous sommes le 15 juillet. Le 15 juillet à Berlin, c'est ce qui s'est passé. La promenade des Anglais, un marché de Noël. Daesh, si cela a été confirmé, frappe partout. D'où l'intérêt de la communauté internationale de se resserrer encore et d'avoir une vision claire face à Daesh pour lutter contre l'État islamique, pour essayer de régler le problème de la Syrie qui, disons-le franchement, si la France avait été un peu plus écoutée depuis 2013, nous aurions peut-être pu avoir des réponses, notamment du côté des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, c'est de la sympathie, c'est de l'empathie, c'est de la fraternité pour nos amis allemands. Mais c'est également se dire, attention, attention, ça continue. Et au moment où la coalition gagne du terrain beaucoup là-bas, en Syrie, en Irak, et où Daesh perd des positions, c'est là, je pense, où il se radicalise à l'extérieur dans des opérations comme celle-ci.
Nous sommes tous des Berlinois, vous avez raison. Mais tout à l'heure, Antoine Guider, au micro d'Yves Calvi, nous disait tout à l'heure, il n'y a pas d'échelle, évidemment, de comparaison possible dans les attaques terroristes. Mais néanmoins, ce qui s'est passé à Berlin n'est pas ce qui s'est passé à Nice. Il ne faut pas céder, évidemment, à la panique. Il faut garder son sang-froid, se garder d'émotions trop fortes. C'est aussi comme ça qu'on répond aux terroristes.
Bien sûr, il faut garder son sang-froid. D'ailleurs, la France l'a gardé. Les Françaises et les Français ont été très forts dans ce qui s'est passé depuis Charlie, depuis novembre, à Nice, etc. Mais enfin, c'est la même chose. Vous dites, faut pas comparer. Si, comparons, comparons. Ce sont des peuples, ce sont des enfants, des personnes âgées, vraisemblablement, des citoyens allemands, français, égyptiens, turcs, tunisiens, somaliens, qui ont été attaqués. Et donc ça, ce n'est pas possible. Et la réponse, ça va être une réponse de fermeté. Le gouvernement fait son travail. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que les marchés de Noël en France étaient surveillés. Il ne faut pas céder à la panique.
Qu'ils seraient plus sécurisés. Mais c'est vrai que la tradition chrétienne est frappée au cœur, on le dit depuis ce matin. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à fermer ces marché de Noël, puisque ce sont ces symboles-là qui sont visés?
Je ne crois pas. Parce que lorsque la France se rabougrit, lorsque la France se replie sur elle-même, lorsque la France oublie son histoire, oublie ses traditions, oublie sa culture, alors ce n'est plus la France. Ce grand pays qui est la France,
donc
un pays qui doit vivre.
Donc plus de sécurisation,
ça suffit.
Hier,
le risque zéro n'existe pas, mais il faut surtout, à mon sens, ne pas arrêter les festivités de Noël, et notamment les marchés de Noël.
Angela Merkel va devoir sans doute rendre des comptes en Allemagne sur sa politique migratoire. Elle a eu tort d'ouvrir les frontières comme elle l'a fait.
Non, mais je ne pense pas qu'il faille encore là tirer des enseignements trop hâtifs comme on a pu le faire en France lors des attentats. Est-ce qu'il y avait assez de sécurité, etc. Les pays, les services de ces pays font leur travail. L'Allemagne est attaquée parce que l'Allemagne est dans la coalition. Et l'Allemagne, de plus en plus, avec la France, est dans cette coalition. Donc il n'y a pas à montrer du doigt, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement en Allemagne, mais à montrer du doigt la chancelière ou le gouvernement allemand, il faut se serrer les coudes.
La réponse à court terme, c'est laquelle? Laquelle est-elle? Quel est votre message ce matin aux Français?
Ce matin, je pense que les Français doivent se dire, la situation est tendue et dramatique et grave dans le monde, en Europe, et peut-être très proche de nous. On a vu ce qui s'était déjà passé. Serrons-nous les coudes. Continuons à vivre, continuons à avancer. L'obscurantisme, l'intégrisme ne peuvent pas nous renverser, ne peuvent pas renverser ce que nous sommes, un peuple fier, un peuple debout, un peuple qui croit en son avenir. Il faut vivre avec la menace, il faut vivre avec des mesures de sécurité supérieures à ce qu'elles étaient jusqu'alors.
La lutte contre le terrorisme doit être au cœur de la primaire de la gauche?
Évidemment, mais la lutte contre le terrorisme est au cœur de la France.
Non, n'est pas au cœur de la primaire de la gauche aujourd'hui, elle doit l'être.
Mais bien sûr qu'elle le sera encore.
Benoît Hamon, je ne rentrerai pas dans cette campagne présidentielle en considérant que la question centrale du débat politique, c'est la question sécuritaire.
Ce n'est pas forcément la question centrale, mais je crois que cette primaire de la gauche doit amener le candidat de gauche qui peut être président de la République. Pas qui veut faire un petit tour pour montrer sa bobine ou pour faire je ne sais quoi.
Vous pensez à qui?
Je pense à Benoît Hamon, par exemple, et
qui
à d'autres.
Qui fait un petit tour pour montrer sa bobine?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour élire le président de la République. C'est pas pour élire je ne sais quel responsable de courant dans le Parti socialiste.
Il y a trop de campagnes, il y a trop de candidatures de témoignages dans cette
primaire.
Non,
ce n'est pas des candidatures de témoignages. Ah bah, toutes les candidatures.
Ceux qui montent leur bouillie pour faire un petit tour.
Il y avait 7 candidats à droite, il y a 7 candidats à gauche. Mais on a bien vu que dans la primaire de droite, tous les 7 n'avaient pas le costume, n'étaient pas taillés pour être président de la République.
Il y avait quand même un casting d'une qualité exceptionnelle.
Oui, il y en avait trois qui pouvaient être président de la République. D'ailleurs, les Français ne se sont pas trompés.
Et là, il y en a combien ?
Il y en a trois qui ont fait plus de 2% à la primaire de la droite. Je pense qu'à la primaire de la gauche, il faut que les Français, les électeurs de gauche qui vont venir à la primaire, se disent que ce n'est pas uniquement pour faire un petit tour pour la primaire et pour préparer le visage des 10 ans qui viennent, qui doit diriger les socialistes, mais pour préparer la France. Il faut éviter Fillon, Le Pen au deuxième tour. Et aujourd'hui, je pense que l'homme d'État dans cette campagne, c'est Manuel Valls.
Dans ce que vous nous dites précisément, c'est que celui qui ne vient pas simplement pour dire qu'il peut être l'homme de la gauche après un échec présidentiel, c'est Manuel Valls. Tous les autres, finalement, ils sont là comme il serait un congrès socialiste.
Non, je ne parle pas de cela. Je vous parle de vous poser la question sur Manuel Valls. Je vous dis que lui, il a le costume et la stature pour être chef de l'État. Il ne faut pas rentrer dans je ne sais quelle combination. Aujourd'hui, il faut parler aux Français et évidemment, le terrorisme, l'international et l'Europe est un des points essentiels de cette campagne. Mais il y en aura beaucoup d'autres, l'économique, le social, etc.
Il n'empêche, le début de campagne de Manuel Valls a semblé un peu poussif. Guillaume,
qui est son
directeur de campagne. Eh bien, par exemple, sa volte-face sur le 49-3, qu'il propose de supprimer la Constitution après l'avoir tellement utilisée, en a troublé beaucoup.
Qui, par exemple, a troublé plus d'un. Qui, par exemple?
Eh bien, un certain nombre de Français, par exemple, que Manuel Valls rencontre, on le voit bien dans les reportages, qui lui disent, mais comment ça, vous voulez supprimer le 49-3 alors que c'est vous qui l'avez utilisé? Ils ne comprennent pas.
Le 49-3 est une arme institutionnelle. Il a été utilisé 2 fois dans ce quinquennat. Yves Calvi l'a répété tout à l'heure. Pas 6 fois, 2 fois, pour 2 lois. Donc déjà, il faut être clair. La loi d'Emmanuel Macron, qui devait passer avec des voix autres et puis qui n'est pas passée, et la loi travail. Pourquoi cela? Parce que 20 ou 25 députés socialistes ont pris en otage la majorité des députés et ont pris en otage le gouvernement. Il a fallu utiliser le 49-3. Il n'y a pas de regret de Manuel Valls de l'avoir fait, parce que nous pensons que la loi travail est bonne. Mais dans le paquet de réformes institutionnelles qu'il proposera pour l'élection présidentielle et pour la primaire, alors si on légifère mieux, si on légifère plus vite, si les citoyens sont associés à la loi, il n'y a pas besoin d'utiliser le 49-3.
Deux choses. On dit 6 fois. Il a raison, Yves Calvi, parce que sur 2 textes différents, on l'utilise plusieurs fois.
Forcément.
Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y avait pas une autre priorité que le 49-3? Les Français ne sont pas obsédés par l'avenir du 49-3 dans la Constitution. C'est ce qu'on va retenir dans la campagne d'Emmanuel Valls.
Bien sûr que non. Surtout si vous le relayez souvent. Sa première proposition, c'était le revenu décent. Ça a été de faire en sorte que les Françaises et les Français aient un revenu qui leur permette de vivre le plus décemment possible.
Alors, ce n'est pas le revenu universel de
Benoît Hamon,
c'est un revenu décent sous condition de ressources.
Évidemment, c'est normal. Enfin, le revenu universel, c'est donner X euros à 62 millions de Français.
C'est ce que propose Benoît Hamon.
Oui, c'est ce qu'il propose. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable. Moi, j'y suis très opposé. Le revenu décent que propose Manuel Valls, sous condition de ressources, y compris pour les étudiants de 18 à 25 ans, c'est reprendre tous les minima sociaux. Pensez à cela. Il y a 10 minima sociaux en France.
C'est juste l'agrégation des minima sociaux.
Non, mais attendez, plus personne ne comprend rien dans les minima sociaux. Et aujourd'hui, c'est de dire tous les citoyens doivent partir avec, 800, 850 euros dans la vie de base. Et puis après, nous allons avancer avec une réforme de la fiscalité et d'autres. Mais le revenu décent, c'est une valeur phare sociale. Nous voulons...
Universel, vraiment universel de Benoît Hamon, c'est quoi? C'est idéaliste? Il va trop loin? Ça coûte trop cher?
Ça coûte 400 milliards, je ne sais pas si c'est finançable. Nous pensons pas que c'est une bonne chose. Parce qu'il faut montrer à ceux qui souffrent qu'il y en a qui souffrent moins, mais que ceux qui souffrent sont aidés.
Alors Manuel Valls veut rétablir aussi les heures sup défiscalisées, encore un mea culpa puisque François Hollande les avait supprimées. Elles seraient déclenchées à partir de l'accord conclu à l'intérieur de l'entreprise sur le temps de travail.
Il présentera son projet tout début janvier, il l'évoquera. Pourquoi il y a le revenu décent et les heures supplémentaires? Parce que le pouvoir d'achat des Français est quelque chose d'essentiel. Et nous voulons redistribuer, redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. La défiscalisation des heures supplémentaires qui avait été faite dans le précédent quinquennat, nous sommes revenus dessus, nous l'assumons totalement, mais nous avons entendu aussi. Alors faire une campagne présidentielle, une campagne de primaire, on ne se met pas un bandeau sur les yeux, on ne se bouge pas les oreilles, on se dit, on n'a rien entendu. Les Français le demandent, nous pensons qu'en termes de justice...
Vous ne pouvez pas nous dire ce matin à partir de quelle heure, sera déclenché leur
Je ne peux pas vous le dire ce matin.
Parce que le programme n'est pas ficelé encore.
Le programme est en train d'être ficelé, mais il sera présenté par Manuel Valls lui-même au tout début janvier. Donc ce n'est pas à moi de déflorer ce bilan. Ce que je peux vous dire, c'est que la défiscalisation des heures supplémentaires sera mise en place très rapidement s'il est élu président de la République et elle concernera toutes les heures supplémentaires.
Combien d'électeurs, à votre avis, est la primaire de la gauche ?
Je ne sais pas, entre 1 et 3 millions.
Ouais. Est-ce que les électeurs de gauche ont déjà intégré la défaite à la présidentielle ?
Ben justement, l'objectif de cette primaire, et ce que nous voulons faire nous, c'est non. C'est relever la tête, soyez fiers. On ne peut pas regarder le film dont la fin serait Le Pen-Fillon. Donc nous pensons, nous, qu'il y a une possibilité. Le programme de François Fillon ne correspond pas à ce que veulent les Françaises et les Français. D'ailleurs, le sondage de hier l'a très bien montré. Il est en train de baisser. Donc nous voulons proposer un programme réaliste, un programme de gauche et un programme républicain.
Il faudra d'abord gagner la primaire.
Bien sûr.
Christine Lagarde a été hier condamnée par la Cour de justice de la République, mais pas punie. Un commentaire. Est-ce que c'était la bonne décision de façon à finalement la préserver dans sa fonction, tout en reconnaissant sa responsabilité?
Je ne sais pas, parce que si elle était coupable, elle devait être punie. Si elle n'est pas coupable, elle ne doit pas être punie. Je pense que ce jugement est un peu mi-chèvre, mi-chou. Je comprends bien par rapport au FMI. Ça doit nous poser la question de ce qu'est la Cour de justice de la République. Pour les Français, ils pensent que ce sont les élus qui jugent des élus. Ce n'est pas là. Il faut avoir une réflexion là-dessus.
Merci beaucoup Didier Guillaume d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.
Concernant Berlin, outre notre solidarité, il ne faut pas interdire les marchés de Noël. Continuons à vivre, même avec la menace, vient de nous dire Didier Guillaume. Et sur la campagne du candidat dont il dirige la campagne, il faut donner du pouvoir d'achat aux Français via les heures supplémentaires et le revenu minimum décent. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.